Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 22h. C'est l'heure du journal. Isabelle Millet.
Aujourd'hui, on est venu dire au président Macron qu'il doit soutenir, respecter, considérer sa police.
Les policiers en colère sous les fenêtres de l'Élysée. Cette fois, c'est au président de la République directement qu'il demande des comptes. Le ministre de l'Intérieur va leur écrire pour tenter d'apaiser le climat. Déconfinement, phase 3, on en saura plus dimanche soir avec l'intervention d'Emmanuel Macron. Les pédiatres, en tout cas, d'une seule voix, réclament le retour des enfants à l'école.
Les enfants ont vraiment plus souffert du confinement que du coronavirus.
Dans ce journal également, à Dijon, un magistrat proposait sa fille de 12 ans sur des sites libertins. Et puis les librairies, à la fête, les lecteurs, ça y est, sont de retour.
On avait beaucoup de crainte d'avoir perdu les lecteurs pour toujours, quoi, presque. Hein. Et là, c'est reparti très fort. On est reparti sur les chapeaux de roue et ça, on ne s'y attendait pas.
Une météo très agitée ce vendredi, vous avez pu le constater vous-même sur une bonne partie de la France. Il a beaucoup plu par endroits avec des images assez impressionnantes. 7 départements sont encore placés en vigilance orange jusqu'à demain matin. On a eu des records de pluie hein, aujourd'hui, notamment en Lozère. Demain, le temps restera instable sur la plupart des régions et particulièrement dans le sud-est. Ne manquez pas les prévisions détaillées de Valérie Darmon à la fin de ce journal. La Bourse de Paris a terminé ce soir en légère hausse de 0,49% à 4839 points. Claire Lemaître de boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières. Et puis comme chaque soir à 22h20, votre rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Yann Keyer. Il est le directeur général du groupe Pierre et Vacances, Center Parcs. Les réservations affluent pour cet été.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils en ont gros sur le cœur et ils l'ont une nouvelle fois fait savoir aujourd'hui. La colère des policiers ne faiblit pas et après Christophe Castaner, c'est donc désormais au président de la République directement qu'il demande des comptes. Alors que le ministre de l'Intérieur a continué de recevoir un à un les syndicats aujourd'hui, mais sans parvenir à éteindre l'incendie des policiers que Mathieu Bock a suivi toute la journée pour Europe 1.
Environ 200 policiers et une cinquantaine de véhicules qui descendent les Champs-Élysées, c'est un coup de force qu'ont réussi les syndicats. Aucun collègue en service pour les stopper ni même les encadrer. Au contraire, les voitures de police allument leurs sirènes pour saluer le cortège qui a ainsi pu venir sous les fenêtres de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur chanter la Marseillaise. Fabien Van Hemelrijk est le secrétaire général du syndicat Alliance. Il s'est directement adressé à Emmanuel Macron, voisin de la place Beauvau.
Il n'y a pas que le ministre de l'Intérieur, hein, c'est important. Au-dessus du ministre de l'Intérieur, le président Macron. Donc aujourd'hui, on est venu dire au président Macron qu'il doit soutenir, respecter, considérer sa police. Tout ce qu'on entend autour de nous, sur la police raciste notamment, sur le fait des violences policières, moi j'ai juste à répondre que la police n'est pas raciste. Elle réprime quand elle a besoin de réprimer et forcément, elle ne choisit pas sa délinquance. Elle ne choisit pas la couleur de la délinquance, c'est-à-dire qu'elle interpelle l'individu. Le gouvernement doit faire en sorte de sanctionner ceux qui nous agressent, qui nous massacrent. Pour reprendre certains propos d'une certaine chanteuse, les collègues ils sont professionnels mais ils n'en peuvent plus.
Les policiers attendent désormais une réponse claire de la part du chef de l'État dimanche soir lors de son allocution télévisée.
Le reportage de Mathieu Bock pour Europe 1. Alors tous les policiers n'ont pas le même ressenti hein, à l'issue de ces rencontres avec le ministre de l'Intérieur. David Lebars du syndicat des commissaires par exemple est ressorti de cette rencontre pas satisfait à 100% mais quand même avec au moins le sentiment d'avoir été entendu.
Écoutez, on a eu la rencontre qu'on attendait, donc déjà premier point, satisfait par rapport à l'écoute. Le ministre est très clair, sur le soupçon avéré, on tourne une page, c'est un propos maladroit, il le reconnaît, il l'a déjà dit dans les médias, il nous l'a redit. Évidemment que c'est pas le soupçon qui condamne le policier, c'est la faute. Donc là-dessus, premier point balayé. Le deuxième point, on lui a fait savoir qu'il n'est pas question de se retrouver dans une zone grise, avec des techniques d'interpellation qui ne sont plus possibles parce qu'elles ont été interdites. Donc il est conscient de ce problème. Alors, que ça s'appelle une prise arrière ou pas, la question c'est qu'est-ce qu'on va employer dans les jours à venir avant qu'on mette en place d'autres techniques. On ne peut pas attendre les réflexions d'un groupe de travail. Donc il va nous écrire ce soir, il va rapidement trancher, mais il nous a assuré qu'il n'y aurait pas de zone grise et donc on ne laisserait pas les policiers sans la capacité de procéder à leur métier, à leur cœur de métier, à savoir interpeller les récalcitrants.
David Lebars du syndicat des commissaires à l'issue de son entretien avec Christophe Castaner aujourd'hui. Demain après-midi doivent se tenir de nouvelles manifestations pour dénoncer les violences policières et le racisme un peu partout en France et notamment à Paris, entre la place de la République et celle de l'Opéra, en particulier à l'appel du comité de soutien à Adama Traoré. Les commerces, bars et restaurants situés sur le parcours resteront fermés sur décision du préfet pour parer à d'éventuels débordements. À Nantes, la manifestation a carrément été annulée. Emmanuel Macron s'exprimera donc dimanche soir à 20h à l'occasion allocution que vous pourrez suivre en direct, évidemment, sur Europe 1, avec peut-être un message pour les policiers, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des annonces concernant la phase 3 du déconfinement que beaucoup de Français voudraient bien voir accélérer. Il y avait deux réunions très importantes aujourd'hui à l'Élysée, Conseil scientifique et Conseil de défense. Rien n'a filtré, ou plutôt si, une seule chose, les tests Covid seront obligatoires pour les voyageurs vers l'outre-mer cet été, en juillet et en août. En revanche, ce sera la fin des quatorzaines imposées à l'arrivée. Alors on suppose bien sûr qu'il a été question aujourd'hui des restaurants, des municipales et des écoles, sujet ô combien sensible. Faut-il assouplir les règles et accueillir davantage d'élèves? C'est ce que réclament en tout cas les pédiatres dans une tribune. Tous les enfants, disent-ils, doivent retourner en classe dès aujourd'hui. Et ils expliquent qu'ils ont plus souffert du confinement que du virus. Écoutez Fabienne Cochère, la présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire.
Nous demandons vraiment avec insistance que les enfants puissent retrouver l'école et une école à visage humain. Moi, je suis spécialisée pour le suivi d'enfants qui présentent des troubles des apprentissages. J'ai des enfants qui sont en difficulté scolaire à ma consultation, qui ne sont pas retournés à l'école parce qu'on leur a dit « Vous savez, votre enfant, il ne pourra pas respecter les gestes barrières. Un enfant qui a une dyslexie ne peut pas respecter le lavage des mains. Enfin, c'est maltraitant. C'est l'application du protocole qui a abouti à une situation de maltraitance pour les enfants et pour les familles. »
La présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire avec Marion Calais. Alors pour les écoles, on ne sait pas encore ce qui va être décidé. En tout cas, les indicateurs sont au vert pour l'instant d'un point de vue sanitaire. 28 décès recensés ces dernières 24 heures. Indicateur au vert au métro, en métropole en tout cas, car l'inquiétude en revanche grandit en Guyane où le nombre de cas a été multiplié par 6 en un mois. Certains élus craignent de devoir reconfiner le département. Manque de soignants et les hôpitaux sont débordés. Le préfet de Guyane, Marc Del Grande, ne cache pas son inquiétude.
Nous voyons les cas qui augmentent très sensiblement depuis la frontière brésilienne. Nous avons eu les premiers clusters. L'épidémie a débordé sur Cayenne et Kourou. J'ai été amené à prendre des mesures de couvre-feu. En semaine, couvre-feu de 21h à 5h du matin et le week-end du samedi 21h au lundi 5h du matin. Et là, dès que nous avons un cluster, on le confine. On a un quartier de Rémire-Montjoly, le quartier Arc-en-Ciel, qui est confiné depuis désormais une semaine.
Le préfet de Guyane, Marc Del Grande, joint pour Europe 1 par Simon Rubin. Et alors que les frontières à l'intérieur de l'Europe doivent rouvrir lundi, les aéroports se préparent, celui de Roissy-Charles de Gaulle notamment, qui imposera des règles très strictes avec prise de température et tests PCR effectués obligatoirement avant d'embarquer. En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte a été entendu aujourd'hui pendant près de 3 heures par un juge sur la gestion de la pandémie. En Espagne, la Galice sera lundi la première région à achever son déconfinement une semaine avant le reste du pays. Tandis qu'en Chine, la municipalité de Pékin a fait fermer aujourd'hui 2 marchés et reporter la rentrée d'élèves du primaire après l'apparition de 3 nouveaux cas de Covid-19 dans la capitale chinoise, après 2 mois sans aucune contamination. Le Royaume-Uni a formellement signifié aujourd'hui à l'Union européenne son refus de prolonger au-delà de la fin de l'année la période de transition post-Brexit, renforçant ainsi les craintes d'une rupture douloureuse.
Europe 1. Isabelle Millet.
Il est 22h08, merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal avec cette affaire sordide que nous vous révélions dès ce matin. Un magistrat de Dijon mis en examen pour avoir proposé à des inconnus des relations sexuelles avec sa petite fille de 12 ans, avec sa femme, mais elle aussi magistrate. Il le recherchait sur des forums, des rencontres libertines, sauf que l'homme proposait donc aussi, photo à l'appui, la participation de sa propre fille. Guillaume Bier, il a été mis en examen et il a reconnu les faits.
Oui, il a tout de suite avoué, mais il assure qu'il s'agissait de fantasmes uniquement et qu'il n'aurait jamais laissé de tels actes se réaliser. Il n'empêche, ses propositions sur Internet étaient explicites et il les a multipliées. La justice en a la preuve, car dans cette enquête qui a duré 8 mois, un policier a eu la mission de s'infiltrer sur le forum où le suspect formulait son offre, explique le procureur de Besançon, Étienne Manteau.
Il a été notamment mis en place une enquête sous pseudonyme, c'est-à-dire d'une enquête où un enquêteur policier est autorisé à agir sous pseudonyme sans pousser à la provocation de la commission d'infraction, mais pour entrer en relation avec le suspect pour confirmer ou non le fait qu'il recherchait des rapports sexuels avec des mineurs. Et donc, c'est effectivement dans ce cadre-là qu'il y a eu des interpellations la semaine dernière.
Placement en garde à vue, mise en examen, contrôle judiciaire, pas de traitement de faveur pour ce magistrat, estime le procureur. Pas d'incarcération provisoire non plus parce qu'il s'agit au final d'une affaire d'offre. Certes, c'est un délit très grave, mais il n'y a pas eu de passage à l'acte. La fillette n'a rien subi. Sa mère est hors de cause. Le magistrat, lui, sera probablement jugé et il fera aussi l'objet d'une procédure disciplinaire.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Presque 7 ans après la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge qui avait fait 7 morts et des dizaines de blessés, la SNCF et un cheminot sont renvoyés aujourd'hui devant la justice pour homicides et blessures involontaires. Un procès qui devrait se tenir dans le courant de l'année prochaine. Un docker de 40 ans a été retrouvé mort ce matin en Seine-Maritime près du Havre. L'homme avait été mis en examen récemment dans le cadre d'une importante saisie de cocaïne. Il a été torturé. Il avait notamment un œil crevé et un chiffon imbibé d'alcool dans la bouche. Il aurait été enlevé la nuit dernière, selon les enquêteurs qui privilégient la piste du règlement de compte. Un trafic de cocaïne démantelé à Lorient, dans le Morbihan. 6 personnes mises en examen. Le principal suspect s'affichait au volant de voitures de luxe et il exhibait des liasses de billets à tout va, alors qu'il était supposé être au chômage. Un incendie aujourd'hui à bord d'un sous-marin en révision à la base navale de Toulon. Le feu a pris feu pour une raison indéterminée dans les parties inférieures, dans une zone très difficile d'accès. Une 40aine de personnes travaillaient à bord quand le sinistre s'est déclenché. La ministre des Armées a prévu de se rendre sur place. Les libraires retrouvent le sourire. Ça y est, les lecteurs sont de retour. Demain, ce sera la fête des librairies indépendantes avec des événements pour marquer le coup un petit peu partout en France. Des libraires que vous avez rencontrés aujourd'hui, Justin Morin, et qui semblent donc plutôt rassurés.
Ce n'est pas Noël, mais presque dans la librairie des Abbesses à Montmartre. Les lecteurs sont de retour dans les petites allées, au milieu des piles de livres, près des échelles postées ça et là pour aller chercher les ouvrages un peu trop perchés. Il y a aussi Marie-Rose Garnieri, la charismatique libraire.
C'est reparti très fort. On est reparti sur les chapeaux de roue et ça, on ne s'y attendait pas. On était un peu, vous voyez, dans les spectatives, on avait beaucoup de crainte d'avoir perdu les lecteurs pour toujours, quoi, presque. Hein. Et là, la joie, ça a été de voir combien le livre, les lecteurs y tenaient beaucoup. C'est comme si on renaissait. C'était une renaissance, quoi, vraiment.
La vraie crainte, c'était celle de voir les habitudes des lecteurs changer après 2 mois de confinement. Pendant que les libraires rongeaient leurs freins, le géant Amazon a continué de vendre des livres. Mais Marie-Rose Garnieri constate que les lecteurs sont restés fidèles. Serge, par exemple, a l'habitude de venir ici.
Ce serait dommage que toutes ces librairies disparaissent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté sympathique, parce que c'est vraiment des librairies où on est accueilli. Il y a un côté pas se laisser bouffer par les GAFA.
Demain, la chanteuse Olivia Ruiz, habitante du quartier et elle aussi défenseur des librairies indépendantes, viendra présenter son livre et chanter quelques chansons.
Le reportage de Justin Morin pour Europe 1. Et puis je vous parlais hier de la reprise du championnat de foot en Espagne. Et bien ce soir, c'est au tour de l'Italie de retrouver son sport national avec la demi-finale de la Coupe Juventus AC Milan. Le championnat d'Angleterre reprendra lui la semaine prochaine et les maillots de tous les joueurs arboreront dans le dos, à la place de leur nom, le fameux slogan Black Lives Matter. Une météo électrique sur une bonne partie du pays aujourd'hui encore. Vous avez pu le constater notamment dans le Nord-Est et sur le pourtour des Cévennes, l'Ardèche, le Gard et la Lozère notamment. Un épisode cévenol exceptionnel pour un mois de juin qui a apporté donc de fortes pluies, des inondations, records de précipitations même par endroits. Christophe Boisson est le maire de Saint-André de Magencoul dans le Gard. Ça fait des années qu'un tel phénomène n'était pas arrivé.
C'était vraiment très très impressionnant. Les routes n'existaient plus à certains endroits. Il y avait des gros trous. Vous avez un trou de 2,50 m, 3 m de profondeur en plein milieu, quoi. C'est allé jusqu'à nous déraciner les réseaux d'eau potable et d'assainissement qui étaient enterrés dessous. Et j'ai entendu ce matin une personne qui m'a dit que ça faisait 60 ans qu'on n'avait pas eu autant de précipitations à cette période-là, quoi. C'est exceptionnel.
Christophe Boisson, le maire de Saint-André de Magencoul, dans le Gard, avec Johanna Chabas. Ce soir, il ne reste que 7 départements en vigilance orange, contre 16 un petit peu plus tôt dans la journée. Il s'agit de l'Aveyron, du Gard, de l'Ardèche, la Lozère, le Puy-de-Dôme, la Drôme, la Loire et la Haute-Loire. Et voilà qui nous amène à la météo, avec vous Valérie Darmon. Alors à quoi va ressembler ce week-end après cette fin de semaine très agitée, Valérie ?
Eh bien, pas terrible, hein, toujours avec ce samedi de la Basse-Normandie à la Bretagne en descendant vers les Pays de la Loire et le Poitou-Charente jusqu'à la Gironde. Des averses orageuses nombreuses qui peuvent démarrer d'ailleurs dès ce samedi matin et l'après-midi. Elles vont toucher le Limousin et la partie ouest du centre-val de Loire. Sur le Languedoc et en PACA, en allant vers l'Auvergne, vers Rhône-Alpes, jusqu'en Lorraine, l'instabilité de la nuit va donner encore des ondées accompagnées localement de coups de tonnerre. Et en Méditerranée, le temps est très orageux jusqu'en Corse, sur le Var et les Alpes-Maritimes. maritime jusqu'au samedi soir. De gros cumuls de pluie sont encore attendus. Ailleurs, les ondées sont moins fréquentes et plus isolées dans un ciel plus variable, surtout avec l'alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Retour au calme pour tout le monde, mais toujours humide évidemment. Pour dimanche, les maximales entre 17 à La Rochelle et 26 à Strasbourg.
La météo signée Valérie Darmon.
Europe 1.
Et dans un instant, la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h16, merci à vous d'écouter Europe 1. Comme tous les soirs à 16h06, vous savez qu'on s'intéresse à la bourse. Maintenant avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui est resté fragile encore ce soir après une chute très brutale des marchés hier soir.
Les indices sont plongés de 6 à 7% hier et ils remontent un peu ce soir. Le Dow Jones reprend 1,9% à 25 606 points. Le Nasdaq gagne 1% à 9 588 points. Alors on a quand même senti beaucoup d'hésitation, de fébrilité à New York aujourd'hui avec des craintes toujours présentes. Peur d'une seconde vague de coronavirus et peur que l'économie américaine reste fragile encore un long moment. Certaines valeurs sont en forte hausse, mais parce qu'elles ont chuté hier dans le secteur aérien notamment. Delta Airlines flambe de 12%, plus 16% pour United Airlines. Boeing gagne également 12%. Le pétrole se stabilise après un plongeon de 8% hier. Le WTI est stable à 36$ le baril à New York. Et puis l'or et le dollar terminent la semaine en forme, faisant encore office de valeur refuge.
Et le rebond est timide également à Paris, Claire, pour le marché parisien donc.
Oui, le CAC 40 a plongé de près de 5% hier. Il regagne 0,49%, 4 839 points. Petit rebond donc après une semaine très compliquée et une perte de plus de 6% sur les 5 dernières séances. Comme à New York, ce sont les valeurs les plus chahutées hier qui remontent. Renault reprend 3%, Peugeot plus de 4%. Le secteur bancaire est également en haut de tableau, mais sans effacer les pertes des derniers jours. Société Générale, par exemple, s'adjuge 3%. Mais le titre lâche 16% sur la semaine. BNP gagne 0,6% mais a perdu 11% cette semaine.
Et dans le secteur aérien, Air France KLM remonte également de plus de 3%.
Plus 3,2% pour Air France KLM. La compagnie Air France prévoit de desservir 80% de son réseau habituel cet été. Et puis le titre Interparfums grimpe de 13%. Le créateur et distributeur de parfums de luxe a signé un accord mondial de licence de parfums avec la griffe italienne de vêtements Moncler. Les marchés européens terminent la semaine en hausse à l'exception de Francfort en repli de 0,2%. Et pour Londres, c'est un gain de 0,5%. Plus 0,4 pour Milan, plus 0,2 pour Madrid, Bruxelles gagne 0,8% et à Paris, le CAC 40, lui, il gagne 0,5% à 4 839 points.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Il est temps de retrouver l'invité d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs.
Bonsoir Yann Caillère.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Alors, on va penser un peu à l'été quand même avec vous, je crois qu'on en a tous besoin. Ça y est, les réservations sont là ?
Bah écoutez, en fait, depuis que le gouvernement a annoncé l'abandon de la restriction des 100 km et que les Français pourront partir en vacances en juillet-août, on a vu une explosion de nos réservations, pour être très très franc.
Une explosion, c'est-à-dire par exemple, on était sur des niveaux records, vous n'aviez jamais vu ça en quelques jours ?
Bah, c'est-à-dire que d'un seul coup, on l'a vu, mais... On l'avait vu d'ailleurs, c'est assez curieux parce que la première annonce d'Edouard Philippe qui était de dire les Français pourront partir en vacances en juillet-août, mais il y avait encore cette restriction des 100 km. Deux heures après, on avait des réservations sur juillet-août. Mmh. Il n'avait pas parlé de juin, morale de l'histoire, juin, rien. Mmh. Et là, depuis l'enlèvement de cette restriction des 100 km, et là, maintenant, on a vu, on est entre 150% et 180% d'augmentation d'appels par rapport aux appels de l'année dernière à la même période.
Ça s'explique assez logiquement. D'habitude, en juin, depuis bien longtemps, on a loué nos réservations de vacances. Malgré tout, je crois que vous allez avoir un retard d'environ 40%, et ça, c'est pas rattrapable par rapport à l'année dernière, c'est ça ?
Je pense que, alors sur juillet-août, aujourd'hui, sur juillet-août, là, au moment où je vous parle, on est entre moins 12 et moins 15% de taux d'occupation. Donc c'est en fait une course contre la montre aujourd'hui, puisque les appels sont beaucoup plus importants que l'année dernière. Donc est-ce que l'on va... Je pense que sur le mois d'août, on devrait rattraper une grande partie. Sur juillet, c'est un petit peu plus problématique parce qu'on a un retard identique à août. La seule différence, c'est qu'on n'a pas autant de, on n'a pas autant de temps pour se rattraper. Mmh. Voilà.
Ce qui n'est pas rattrapable, c'est ce que vous n'avez pas fait aux vacances de Pâques et ce que vous n'avez pas fait sur les ponts du mois de mai et sur le mois de juin.
Ça, c'est clair. Depuis le 15 mars, nous, c'est simple. En quelques jours, on a fermé tous nos sites. Mmh. Et donc là, on est en train de les réouvrir. Donc là, les Saint-Orparc ont réouvert. On a réouvert une partie de nos pierres à vacances. Là, ce week-end, on va en ouvrir d'autres. Donc globalement, autour du 25, on sera tout ouvert partout. Mais ce qui est perdu est perdu. Ça, c'est le.
C'est là où on peut dire que vous avez 40% de retard que vous ne rattraperez jamais.
Ah oui, non, ceux-là, on ne les rattrapera jamais. Mmh. Ça, c'est sûr.
Alors, maintenant, quand même, qu'on voit qu'on est plus positif et que les gens arrivent, comment on va les mettre, par exemple, chez Saint-Orparc? Parce que là, on va chez Saint-Orparc pour être tous et longtemps dans la piscine. Comment on fait?
Bah écoutez, on fait comme un peu on a fait au moment où on a fermé. Dans des pays, on nous a donné des restrictions. Au début, on nous a dit, bah, écoutez, vous ne pouvez pas accueillir plus de 500 personnes. Puis après, 150 personnes. On s'était adapté. Donc là, aujourd'hui, on est dans une phase où on est sur les 4 mètres carrés. Et en fait, on est allé au-delà de ça parce que les mesures sanitaires sont extrêmement importantes. Donc on est allé aujourd'hui sur 10 mètres carrés. Là, on va passer à 7 mètres carrés, puis ensuite 4 mètres carrés. Donc globalement...
Mais de façon très concrète, quand vous êtes en bas d'un toboggan ou d'un truc comme ça, comment vous faites en sorte d'être sûr que les gens respectent?
C'est-à-dire, vous savez qu'on a beaucoup de maîtres nageurs qui contrôlent. Et en fait, vous pouvez y aller une fois que l'autre est parti. En gros, c'est aussi simple que ça. Et par contre, la seule chose qu'on accepte, c'est quand vous avez des familles. Parce que les familles qui sont ensemble dans un cottage... Bon, on n'a pas de risque qu'elles soient ensemble, vous voyez. Oui. Mais par contre, c'est la promiscuité d'autres familles ou d'autres groupes.
Donc ça va être fait. J'imagine que ce sera pareil dans les piscines de vos pierres et vacances.
Pareil. Exactement la même chose. Et donc c'est pour ça qu'on est content parce que là, on revient sur une offre générale. Si je peux me permettre, on avait fait un sondage il y a un mois et demi. J'avais demandé à ce qu'on sonde nos clients pour voir dans quel état d'esprit ils étaient pour se préparer le mieux possible. Et en fait, ce qui était marrant, c'est exactement ce qui s'est passé. 90% des gens disaient « on veut partir en vacances en juillet-août », 80% n'avaient pas réservé, 50% attendaient que le gouvernement prenne des décisions. Et une fois qu'on avait dit ça, on leur disait « bon, mais qu'est-ce que vous attendez ?» La première chose, c'est « on veut des vacances sympas », parce que bon, ils ont été quand même confinés un bon moment. La deuxième, avec des conditions sanitaires optimum. Et la troisième, un maximum de flexibilité sur les réservations et l'annulation. Bien sûr, il y a toujours la crainte d'une vague 2. Et donc, ils ne voulaient pas se retrouver coincés avec des acomptes, etc.
Et c'est là où un groupe comme vous répond à ces attentes, notamment parce que si on prend l'exemple des pierres vacances, mais c'est pareil également pour les Saint-Orparc, ce sont des appartements individuels, des cottages, où du coup, on n'est pas en masse tout le temps.
Absolument, puisque vous pouvez faire votre propre cuisine. Et donc, vous n'êtes pas obligé d'être dans des restaurants entassés, etc. Donc ça, c'est un gros plus. En plus, on a développé dans les Saint-Orparc un service traiteur. On a même fait un service delivery dans les cottages, ce qui fait que les conditions sanitaires et les conditions d'un bon séjour sont absolument en place.
Je crois que d'un côté, réservation, c'est assez classique, le sud-ouest, la Bretagne, l'ouest en général, on va dire, la Côte d'Azur. Mais petite particularité cette année, même si ça se voyait quand même depuis quelques années, gros boom de la montagne.
Exactement. En fait, il y a le traditionnel, le sud, est, ouest. Et par contre, les deux gros gagnants cette année, par rapport aux autres années, c'est la montagne et la Bretagne. Mmh. Oui, c'est clair que là, aujourd'hui, au niveau des appels, d'habitude, sur les séjours, les appels, c'est à peu près 15% sur la montagne. Eh bien, en ce moment, on est à 20%.
Est-ce que les étrangers, maintenant que les frontières devraient se rouvrir également en Europe, est-ce que les étrangers sont là?
Écoutez, alors les étrangers, en fait, nous, en été, on est sur des marchés qui sont plutôt domestiques, c'est-à-dire les Français en France, les Belges en Belgique et les Hollandais en Hollande. Donc, on n'est pas tellement concerné par ça. Vous avez des zones de type le sud-est, par exemple, la Côte d'Azur, etc., ou le sud-ouest, notamment avec les Hollandais. Mais pour nous, c'est une part qui est vraiment minime. On parle de 7 à 8 %, pas plus.
Mais est-ce qu'ils sont là quand même? Ou là, pour le moment, vous n'avez rien?
Pour l'instant, c'est assez léger quand même, Il y a un peu de Hollandais, mais autrement, c'est très peu.
Un grand merci Yann Caillère, le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parks, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve lundi, 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous. Effectivement, on vous dit à lundi, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Aïssa Maïga et Adèle Haenel sont à la une de Libération avec ce titre « Enfin, il se passe un truc politique ». Engagées contre les discriminations raciales, sexistes et sociales, les deux actrices marcheront demain contre les violences policières aux côtés du comité de soutien à la famille d'Adama Traoré. Colère bleue, c'est le titre de l'édito d'Isabelle Bollen dans le journal L'Alsace. La colère des policiers est compréhensible, écrit la journaliste. Ils ont été mis à rude épreuve ces derniers mois. Des manifestations des Gilets jaunes à celles contre les retraites, en passant par la lutte contre le terrorisme. Un travail harassant, difficile, ingrat, mais indispensable à la société. À défaut de bons salaires, les policiers attendraient au moins en échange de la reconnaissance et ils estiment ne pas l'avoir. La maladresse de leur ministre, trop pressé d'éteindre un nouveau foyer d'incendie, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il va de soi que les policiers ont, comme tout un chacun, droit au respect de leur présomption d'innocence et que les insultes, violences et menaces dont ils sont l'objet sont inacceptables. La police, plus que toute autre institution, doit être irréprochable et ne pas tolérer de dérives en son sein. Au-delà du rétropédalage que Christophe Castaner a déjà amorcé, la tâche s'annonce longue pour réconcilier la police avec toutes les franges de la population. Cela ne pourra passer que par une vaste remise à plat de la formation, des méthodes d'interpellation et davantage de proximité avec les citoyens. C'est donc à lire demain dans le journal L'Alsace. Toute autre préoccupation à la une du Parisien aujourd'hui en France. Fruits et légumes, sommes-nous prêts à acheter français et plus cher? Les consommateurs sont nombreux à vouloir acheter des produits frais venant de l'Hexagone, mais ils sont aussi de plus en plus attentifs au prix. Covid-19, les dérives des revues scientifiques pour le Figaro. Le scandale de la publication sur l'hydroxychloroquine dans le Lancet n'est que l'aspect le plus visible d'une crise de la production scientifique en cette période de pandémie. Et puis, bar, resto, retour à la normale espéré, titre Ouest France. On devrait en savoir plus, vous le savez, dimanche avec l'intervention du chef de l'État. Une allocution à 20h que vous pourrez suivre évidemment en direct et en intégralité sur Europe 1. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous découvrirez demain matin dans vos kiosques. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie de Sabine Marin pour votre libre antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir à vous Isabelle.
Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir.
Plaisir partagé. Je vous donne rendez-vous dans une petite demi-heure maintenant pour les prochaines infos.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.